Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Radio Craponne en compagnie de Pascal Blasi pour un livre par semaine. Aujourd'hui, elle va nous parler des contes de la licorne, Le couloir des licornes de Martine Herman. Bonjour Pascal.
Bonjour. Plongeons dans l'univers merveilleux de Martine Herman avec le premier conte de ce recueil, donc Le couloir des licornes. Tout a commencé par une réminiscence. Celle-ci était olfactive. Ce sont les plus traîtres. Elles vous connectent par surprise à la partie la plus enfouie de votre inconscient et vibrent dans un rappel sensible qui ne parvient pas à se clarifier. Je participais à ce qui n'était pourtant qu'une simple expédition du club photo du Césalier. Notre petit groupe comprenait Gaspard, le président, un professionnel de la photo, d'un naturel pensif, sans que l'on sache si cette réserve lui venait d'une humilité réfléchie ou d'une tendance à l'évasion chronique, Sylvia, la passionnée, greffant son engouement sur des aptitudes artistiques incontestables, avec, en conséquence, d'inépuisables ressources au service de son enthousiasme, Marine, une amatrice éclairée, dotée d'une énergie très positive, ainsi que de deux membres d'un autre groupe de rando-photo, une photographe nommée Marguerite, que je ne connaissais que par ses intéressants clichés du Cantal, et un jeune randonneur, Chris, chargé de nous guider, car l'endroit était difficile à trouver. En effet, il était plutôt hasardeux de s'aventurer dans les tranchades de l'Aquérie, près de Condat en Feigné. Bien que cette faille d'une rareté géologique avérée constituât un site exceptionnel, le lieu privé restait inaccessible au grand public. Aucun balisage permanent, les quelques initiés qui s'y aventuraient le faisaient à leurs risques et périls, tant il était facile de se perdre dans le dédale des fractures rocheuses au milieu d'une forêt ou la végétation inextricable. La saison dernière, deux promeneuses en avaient fait les frais. L'une d'elles, se trouvant séparée de son amie sans parvenir à la rejoindre, avait fini par rebrousser chemin pour appeler des secours que l'approche de la nuit rendait nécessaire. Les températures baissent rapidement dans cette région de montagne et elles demeurent perpétuellement froides au fond des tranchades. J'ai lu quelque part que les gens de Condat s'en servaient de glacière au début du siècle dernier, à une époque où l'endroit était un but de promenade assez fréquent, tel qu'en témoignent des restes d'aménagement, avant qu'il ne fût jugé trop dangereux d'y aller, ou simplement que ce genre de distraction ne soit plus dans les goûts du temps, sauf pour quelques amateurs de beauté naturelle. Et nous avions bien l'intention d'en profiter, sans avoir à déranger un hélicoptère pour rechercher l'un d'entre nous. Avec le recul, je m'interroge sur l'anonymat qui entoure les tranchades et trouve étrange qu'aucune légende ancienne, aucun récit pittoresque du passé ne fasse référence à tel endroit propice à enflammer l'imagination par son aspect particulièrement singulier. J'ai trouvé sur le net une espèce de conte qui, en mêlant joyeusement les phaïstos grecs et les trolls nordiques, ne pouvait qu'être une facture récente. Même les publications dans des revues de belle notoriété n'ont pas attiré beaucoup d'adeptes. Tout semble avoir toujours favorisé l'oubli autour des tranchades et constitué une aura protectrice pour les préserver d'un envahissement populaire. Elles n'existent vraiment que pour les autochtones qui ne leur prêtent pas pour la plupart qu'un intérêt amusé lié à des souvenirs de jeunesse. Cela me conforte dans l'idée que cet ostracisme n'est pas dû au simple hasard ou à l'indifférence locale pour la valeur de son patrimoine. Ainsi, il me faut compter ce qui m'est arrivé ce jour-là, avant qu'un voile d'oubli n'en vienne à me faire douter de mes souvenirs, si ma décision d'y retourner s'achève sur une amère déception. Nous progressions tant bien que mal dans l'enfilade des couloirs rocheux, aussi impressionnés qu'admiratifs. Comment ne pas être saisi par la verticalité des parois qui renvoyaient très haut le ciel et le monde forestier. Univers familier que l'on venait de quitter pour s'engager dans cette succession de gorges étroites, toujours plus resserrées à mesure que nous franchissions de nouveaux goulets. Règne d'une ombre éternelle, car même avec l'hiver qui avait dépouillé les arbres du sommet de leurs feuilles, aucune chance que la lumière du plein jour ne parvint à atteindre efficacement ces profondeurs. La pierre, donc, torturée, fragmentée, noircie et veinée d'orgue gigantesque, mais fusionnant son univers avec les mousses et les fougères, véritable maîtresse des lieux qu'elle enrobait, feutrée, effilochée, attentive à déployer une amorce de pelure sur la moindre aspérité où l'on pouvait accrocher leur matière spongieuse ou échevelée. Les troncs des arbres échoués au fond de ce piège s'en trouvaient engloutis, et ce, comme un mikado géant qui embarrait les hauteurs d'une chute interrompue, se trouvait frangé d'écharpes vertes, haillons de verdure, pendantes, pressées de rejoindre l'hégémonie souveraine de cette végétation à la gloire de l'humidité. Pas de source pourtant. Les tranchades, toutes suintantes qu'elles fussent, ne partageaient pas leur minéralité avec l'eau vive qui aurait noyé leur canyon. En cette saison, que le début d'un hiver trop doux laissait exempt de neige ou de gel, c'étaient les feuilles mortes qui s'amoncelaient sur le sol, échouées au fond de ces trous, après avoir été arrachées au monde du dessus, pour former un tapis dense, bruissant, glissant, camailleux de brun, où dominait une étrange tonalité marron glacé, alors qu'elles ne se décidaient pas à pourrir, avant que l'été n'ait raison de leur intégrité, en les dissolvant dans la fluorescence des mousses. Un peu éloignée du groupe, la narratrice va faire une étrange découverte. Il y eut alors cette impression fugitive qui m'envahit pour me renvoyer à un bonheur d'enfant, d'autant plus précieux qu'il est difficile à définir et encore plus à retenir. Une odeur donc que j'assimilais vaguement à celle des promenades en forêt lorsque j'accompagnais ma mère à la cueillette de champignons. Ce n'était pourtant pas uniquement celle de l'humus. Il s'y mêlait une tiédeur moite d'écurie, moelleuse comme une envie de se lever en elle. Dans l'impossibilité d'y associer un souvenir précis, je fermais les yeux pour tenter d'en isoler l'essence intime, et c'était presque douloureux, cette quête perdue d'avance d'un paradis enfui. Lorsque je les rouvris, j'eus réellement la sensation d'une présence derrière moi. Je me retournai et détaillai l'espace que je venais de traverser. À cet endroit, la falaise s'avançait en formant une petite grotte suffisamment creuse pour présenter ce qui était vraisemblablement le seul endroit sec de la faille, et c'est là que je vis l'animal. Il y avait une bête couchée sur le sol, roulée en boule et présentant un dos blanc qui semblait presque irisé sur les feuilles sèches de sa couche. Je pensais à un chevreuil, mais ce n'était pas du tout le bon pelage. Existe-t-il des chevreuils albinos? Et puis, je venais de passer à côté de cet endroit, et si j'avais remarqué la cavité, j'étais certaine de n'avoir rien vu à cet emplacement. Un coup d'œil vers la sortie me confirma que mes amis m'attendaient plus loin. Je ne pouvais pas leur faire part de ma découverte. Je tentai une approche mesurée de l'animal dont l'immobilité me faisait craindre quelques problèmes et ne provoqua aucune réaction chez celui-ci. J'étais toute prête à me pencher sur lui quand je m'avisai que j'étais tout de même photographe et me saisis doucement de mon appareil. Je fis une rapide mise au point, le cœur battant, et me tendis en avant pour l'encadrer, le flash devant éclairer suffisamment pour me permettre d'en distinguer un peu plus. Je sus plus tard que j'avais appuyé, mais sur le coup, alors que la bête surprise releva la tête dans un mouvement gracieux et lent, j'en échappai mon appareil d'incrédulité. Cette tête chevaline et si fine s'ornait d'une longue corne brillante. J'avais devant moi ce qui avait toute l'apparence d'une licorne. Héberluée, je tendis machinalement une main vers elle, tandis qu'elle me livrait un regard confiant et, me sembla-t-il, résignée, comme en ont parfois les victimes de la violence humaine. Je flattais timidement son encolure, où la longue crinière luisait en une étole de soie blanche et gagnait le toupet. La corne en émergeait ainsi qu'une excroissance merveilleuse qui ne pouvait qu'être naturelle. Il n'y avait pas de trucage. Je caressais cette matière incroyable et lorsque je regardais mes doigts, une poudre pailletée s'y était déposée, qui scintilla un instant avant de disparaître comme autant d'étincelles fugitives. C'était le même éclat d'or qui illuminait les yeux de la licorne dans une ineffable douceur. Sous le charme de l'instant, je m'assis à côté d'elle et me contentai de l'admirer. La pensée me vint que j'aurais pu prévenir les autres de cette incroyable trouvaille, mais ils sauraient bien revenir en arrière me chercher si je n'apparaissais pas assez vite. Je n'avais aucune envie de laisser échapper le bonheur de rester là, en compagnie de l'inconcevable prodige. Elle ne paraissait pas blessée, simplement très faible, et je me demandais s'il était en mon pouvoir de lui apporter de l'aide. Je pensais à la petite bouteille d'eau que j'emporte toujours avec moi dans le sac de mon appareil. Avec des gestes mesurés, je m'en saisis et en versai un peu dans ma main gauche en coupe que je présentai devant le doux velours des naseaux de la licorne. Elle s'anima pour y passer un coup de langue léger que je devinais plus proche du remerciement que de l'intérêt. Ce simple mouvement eut pour effet de dégager un nouvel effluve de cette bouleversante fragrance qui m'avait déjà tant troublée. Ainsi, c'était d'elle que provenait ce rappel émotionnel. Instinctivement, je me penchai et plongeai mon visage dans l'opulence de sa crinière pour capter d'une inspiration profonde l'aura magique de la bête. Vertige de perception, voyage à rebours jusqu'à un âge oublié, il fut un temps où, lorsque je jouais à inventer des mondes, ceux-ci se matérialisaient autour de moi. Je l'avais oublié, comme je ne savais comment faire en grandissant pour rattraper cette faculté, alors que le jeu ne devenait plus qu'un jeu. Les larmes coulaient sur mes joues quand je relevais la tête et vis un rayon de lumière qui ouvrait un couloir brillant dans l'enfilade de la tranchade. La licorne, soudain ravigotée, se leva d'un bond aérien et s'engagea dans la clarté avec laquelle elle fusionna dans une symphonie d'or et de blancheur. Se retournant à demi, elle me lança un long regard confiant, peut-être une invite à la suivre. Je me mis debout devant la coulée miroitante et fit un pas à l'intérieur. Si vous avez envie de connaître la fin de cette aventure et d'en découvrir bien d'autres, toutes plus magiques les unes que les autres, eh bien je vous invite à lire Les Secrets de la Licorne de Martine Herman aux éditions Créées.